finalement c'est un tout public, hein, c'est pas forcément que pour les enfants.
Et pourquoi spécialement cette volonté de le faire en direction des enfants? Est-ce que c'est parce que le public des concerts de blues d'une manière générale a besoin de se renouveler?
Alors ça, je veux pas me prononcer là-dessus. C'est qu'en fait, je travaille avec le jeune public déjà depuis 10 ans, moi. Donc c'était logique que je fasse un jeune public sur le blues. Après, je sais pas si c'est bien que je crois que c'est la première fois qu'il y a du jeune public à Cognac. Et je pense que c'est intéressant aussi. Ça ramène des parents qui écoutent pas forcément du blues vont venir avec leurs enfants aussi. Et là, ils vont découvrir justement. Ils vont découvrir le blues. Il y a beaucoup de parents qui viennent voir les Bananes et qui viennent voir Vicious Steel après. Il y a un lien en fait entre les deux.
Comment était le public devant vous, Vicious Steel? Comment est-ce que tu l'as ressenti, toi, de l'autre côté du cagnard, j'allais dire? Parce que c'est vrai qu'on va dire, pour les auditeurs, c'est pas très radiophonique, il y avait une scène, bien évidemment, à l'ombre, puis une trentaine de mètres de soleil, et puis ensuite, quelques arbres pour abriter les gens. Est-ce que tu as pu ressentir, quand même, leur vibration, la façon dont ils répondaient à ta musique?
Oui, on le sentait sur les applaudissements, et puis après, on l'a vu aussi au moment de la vente de disques, donc non, on était très contents, mais ça répondait, à chaque fois qu'on arrivait à faire un petit... les faire participer, à chanter, tout ça. Et puis au moment quand on commence à jouer avec le tracteur, bon bah là il y avait une vingtaine de photographes devant.
Alors tu peux nous expliquer, parce que c'est très visuel, pour les auditeurs, on est uniquement à la radio encore une fois, un tracteur sur scène, pourquoi, comment?
C'est un tracteur, c'est un capot de Massey Ferguson, et sur le capot j'ai fabriqué un lap steel. Voilà, et en fait je voulais un décor de scène comme on fait un blues assez rural. Je voulais un décor avec un tracteur, et je me suis dit je vais pas me trimballer un tracteur exprès dans le camion juste pour faire beau, donc j'ai fait un lap steel, j'ai fabriqué un lap steel sur le tracteur.
Tu peux peut-être prendre un lap steel sur un avant de tracteur Massey Ferguson.
C'est ça, ouais, c'est un F-35, un vieux tracteur des années 50. Et ça me rappelle aussi à mon enfance. Et puis mes grands-parents des deux côtés étaient agriculteurs aussi. Donc j'ai toujours ce rapport-là à la terre. Et je vis toujours dans ma petite campagne, ce qui s'appelle Argentine exactement, dans les Deux-Sèvres.
Donc le blues rural et puis la ruralité du monde agricole français, c'est la même chose?
Non, je pense pas, parce que ça a changé. En même temps, maintenant, quand on a visité le Mississippi, maintenant c'est des grosses fermes comme chez nous. Voilà, ça c'est pas ce que je défends, on va dire. Je préfère les petits producteurs et le direct. Mais bon, ça après c'est plus de la politique, c'est autre chose.
Est-ce que ça va être un élément du prochain décor, des prochains concerts que vous allez faire à droite à gauche par la suite?
Alors là, on va le retrouver tout le temps dans le duo, mais je suis en train d'écrire un nouvel album pour 2020, où là, on sera 6. Il y aura une trompette, un trombone, un harmonica, un bassiste, et toujours le duo. Donc je vais écrire, ça sera un petit peu plus folk, un peu plus americana, toujours avec un peu de français et un peu d'anglais, mais toujours en gardant cette musique, ce hill country un peu sauvage.
Ça sera le blues des années 20.
Ouais, des années 2020, ouais. Parce que de toute façon, nous, on est nés dans les années 80, donc on a pris tout le rock des années 90, comme des groupes comme Rage ou même Jack White, tout ça, donc ça m'inspire toujours.
Un groupe comme Toto qui va jouer ce soir, c'est quelque chose qui te parle? Ça fait partie de ton paysage musical ou pas du tout?
Alors, j'ai jamais trop écouté, après je connais bien, et puis si, ça me parle, et puis ça fait partie des plus grands groupes du monde, quoi, on va dire. Voilà, donc c'est pas trop, moi je suis quand même beaucoup plus rock, des guitares un petit peu plus saturées, et en même temps, autrement, c'est peut-être pour ça que j'aime Patton aussi, parce que les enregistrements ils sont assez sales aussi, donc j'aime bien ce qui déborde et ce qui dégouline.
Ce qui patonne et ce qui détonne en blues, voilà, quelque chose d'un petit peu trash.
Exactement, c'est très juste.
Merci Cyril pour tout ça, et puis bonne fin de festival.
Eh bien merci à vous aussi. Voilà, à bientôt.
À bientôt.
charge. Une bonne journée, je vais aller retourner avec mon bulldozer.
Voilà, continue à se promener dans les allées du festival de Cognac Blues Passion. Merci à tous les intervenants déjà entendus, Cyril Magui à l'instant, nos bénévoles et puis Alexis Evans. Et puis Dan, maintenant on est allé voir un groupe qui s'appelle Isaiah.
Alors justement, presque à la sortie du site, on a entre guillemets chopé le duo qui allait à une autre conférence de presse et on s'est retrouvé un peu plus tard. Alors le duo c'est composé de deux jumelles, Caroline et Jessica. C'est un blues, enfin c'est du folk, un peu électro, ensorcelant, hypnotique. Et ensuite, on a passé donc un bon moment dans ce village d'artistes avec ces deux artistes et leur manager. Ça marche ? Bonjour Isaiah, nous sommes ravis de vous revoir. On était là l'année passée. Et d'ailleurs, l'année passée, ça a été une année assez exceptionnelle puisque vous avez remporté le prix Cognac Blues Passion. J'aimerais savoir, depuis cette année-là, depuis l'année passée, qu'est-ce que vous avez fait et que vous a apporté ce prix ?
Alors, ce prix, déjà, nous a rapporté le fait qu'on soit là aujourd'hui sur la grosse scène Blues Paradise, donc juste avant Toto. Donc ça, c'est vraiment un cadeau énorme pour nous. Et puis plein d'autres trucs. Hein, le Cognac Blues Passion, c'est un festival qui nous a apporté musicalement aussi, avec des découvertes, mais aussi surtout sur le plan humain, de voir qu'un festival comme ça où tout le monde est sympa, l'organisation parfaite, super accueil. Enfin bref, c'est une réelle surprise à chaque fois et un plaisir de venir parce que c'est la troisième fois qu'on vient là. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Et cette année, ce qu'on a fait surtout, c'est un nouvel album. Donc du coup, qui sortira en janvier 2020. Donc là, ça y est, c'est dans la boîte et on s'est consacré à ça cette année surtout. Et voilà. Et donc du coup, pour aussi remercier le festival, on avait décidé ce soir de faire de ce prochain album qui sortira en janvier.
Peut-on avoir le titre de cet album ? Il y a un titre déjà ?
Ça s'appellera ADN. Moi, tout simplement. C'est le point commun que nous avons tous, terriens. Et surtout, on s'est rendu compte aussi par des tests. Vous savez, il y a des tests maintenant d'ADN qui existent, que nous sommes de multiples origines, mais aussi beaucoup, et ça nous a fait plaisir parce que nous aimons beaucoup la musique de là-bas, d'Irlande. Donc du coup, on a un pourcentage assez élevé d'irlandaise, et donc du coup, on s'est dit, c'est peut-être pour ça qu'on aime bien la folk américaine, parce que tout vient de là-bas finalement. La folk américaine vient aussi d'Irlande, d'Angleterre, tout ça. Et voilà. Qu'est-ce que tu voulais rajouter, Jessica?
Je voulais juste dire que comme on était jumelles, on avait le même ADN aussi. Et du coup, comme c'est un retour aux sources aussi cet album. Ça allait très bien, ce titre-là, retour aux sources, un bout de nous-mêmes vraiment mis comme ça en musique, avec des titres très importants pour nous.
Qu'est-ce que c'est la votre musique ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Et j'allais dire, à quel endroit puisse-t-elle et vers où veut-elle aller ?
Alors c'est beaucoup de questions qu'on ne se pose pas en fait, parce que c'est pour nous naturel de faire une musique. On se dit pas où elle va aller, d'où elle sort. Je pense que elle sort tout d'abord de notre intérieur. Hein, nous on essaye peut-être de rechercher dans l'infiniment petit à l'intérieur de nous au lieu de peut-être chercher dans l'infiniment grand, je sais pas, parce que c'est vrai qu'au niveau influence, nous on aime vraiment les vieilles musiques qui n'existent pratiquement plus, c'est-à-dire le blues des années, mais même 20. On aime aussi tout ce qui est Carter Family, de la folk américaine, tout ça, qui pareil, il y a des années 30, enfin 30, 40, 50. Donc si vous voulez, c'est pas commun et du coup il n'y a pas beaucoup de supports aussi musicaux, donc on n'a pas pu s'influencer de beaucoup de trucs comme ça. Je m'évade un peu là, je sais pas, c'était quoi la question en fait.
La question c'est d'où venez-vous, où êtes-vous et où allez-vous? En fait, le blues des années 20, c'est à partir de janvier, l'année prochaine, votre prochain album, ça sera du blues des années 20, 2020.
Tellement pas, voilà, ça y est, j'ai compris la question. Non, tellement pas. Nous, on dit juste ce qu'on aime. Mais
que je sais pas si ça se ressent dans notre musique, j'en sais rien. Je pense même pas que ça se ressente, ça, je sais pas. Mais en tout cas, on se pose pas ces questions, où ça va aller, je sais pas. On veut juste faire voyager les gens à travers nos messages, tout simplement, musicaux, et nos mélodies.
Alors, il y a assez peu de jumeaux qui font partie de la même formation. Je voulais savoir s'il y avait entre vous, sur scène et hors scène, bien sûr, une forme de télépathie.
Oui. Oui. Alors, j'ai donné un exemple qui vraiment explique le truc-là. Mais il y en a plein. Par exemple, une fois, je suis partie en Thaïlande pendant un petit moment, quelques mois. Et j'ai créé un texte. Enfin, j'ai écrit un texte alors que... J'écris jamais en premier les textes, c'est souvent la mélodie qui me fait écrire les paroles dessus ensuite, par exemple. Mais là, j'ai écrit un texte, comme ça, en anglais. Je reviens dans le sud de la France, 9 mois après, et Jessica, elle, avait fait une mélodie avec 2-3 paroles, mais pas un texte. Hein. Donc il y avait, c'était juste Mary. Le titre. Et d'ailleurs, c'est devenu Mary après. J'ai calqué mon texte sur sa mélodie, ça s'emboîtait à la perfection. Et moi aussi, hein, j'avais écrit Mary. Donc c'était vraiment un truc.
Non, c'était le yaourt qui correspondait à.
Oui, oui.
Je faisais du yaourt et tous les
mots en A, en I de chaque phrase, c'était exactement la même chose qu'elle avait fait en vraie parole. Voilà, ce que je disais, ça se calquait parfaitement. Bon, voilà, truc de fou, quoi.
Alors ça, c'était, on va dire, une création exceptionnelle. Mais dans le domaine courant, comment est-ce que vous créez, comment est-ce que vous faites vos chansons, comment ça se passe?
Moi, des fois, c'est vraiment une mélasse de nous deux. Moi, des fois, je vais apporter une musique, elle va faire des harmonies dessus, et puis on va inventer la fin ensemble, par exemple. Et puis après, on va dire, mais ça me fait penser à cette couleur, donc on va plutôt se diriger vers ce thème, parce que nous, on parle beaucoup en couleur aussi. Et ensuite, c'est le contraire. C'est elle qui va chanter, comme ça elle va chanter un truc comme ça qu'elle invente sur le coup, et puis je vais dire, non, mais c'est trop bien, et je vais faire un petit truc par-dessus, une voix haute ou une voix basse. Et ça va s'entremêler et ça va faire une mélasse de nos deux idées. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est à la fin, c'est toujours un mélange de nous deux. C'est vraiment un bout de nous deux plus ou moins gros à chaque fois, ouais, qui se mélange et qui voilà.
Pour avoir vu votre concert de l'année passée, hein, qui était un concert exceptionnel, enfin très hypnotique, hein, avec ses percussions, le mélange de vos voix. Par rapport à ce nouveau concert de ce soir, comment est-ce que vous avez conçu ce concert, plus étoffé, enfin avec d'autres personnes? Quelle est l'évolution par rapport à l'année passée, de ce qu'on a vu l'année passée? Vous êtes sur la grande scène, donc je suppose que ça aussi, ça induit d'autres choses.
Oui, alors bon, il y aura des morceaux qu'on a fait aussi l'année dernière, qu'on va refaire aussi là, mais peut-être un peu différemment. On a fait pas mal d'arrangements finalement en un an. Et du coup, on va commencer justement par ces morceaux-là. Et ensuite, dans la continuité de... On va faire peut-être au milieu de cette liste, petit retour aux sources, qu'une chanson Jessica et moi, juste comme ça avec la guitare, pour montrer aussi la simplicité de notre duo à la base, qui est très simple et épuré. Et ensuite, on va repartir avec les nouveaux morceaux pour annoncer finalement le prochain disque, quoi, le prochain album surtout, voilà. Du coup, des titres un petit peu plus, on a choisi, parce que sur le prochain album, il y a des titres qui balancent pas mal, quoi, mais il y a aussi des titres très doux et très blues, bluesy, folk. Mais ceux-là, on les a pas pris pour faire ce soir. On va à la fin du set, on a voulu faire un peu l'artifice, et du coup, on prendra les titres de nouvel album un peu pétants. Car il faut savoir que c'est quand même une grosse scène, et il faut savoir qu'on n'est pas dans un milieu intimiste du tout. Même si on arrive à créer de l'intimité là-dedans, ça serait génial, mais bon, on va dire.
Alors c'est ça, parce que quand on est sur la scène Blues Paradise, c'est pas tout à fait n'importe quelle scène ici sur Cognac. C'est d'abord, on va dire, la scène de référence pour le grand public. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, jouer devant le grand public?
Jouer devant le grand public, c'est des bonnes questions, ça. Hein,
Ça veut dire tout simplement ne pas jouer que devant un cercle d'initiés à certains styles de musique, mais aussi à des néophytes, des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne demandent qu'à connaître votre univers parce qu'ils attendent évidemment la vedette derrière. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire ce soir pour, on va dire, faire en sorte qu'à la fin de votre concert, les gens disent « on a vu Isaiah ».
Ouais, ouais. Déjà, on va répéter notre nom plusieurs fois. Et ensuite, écoutez, on va essayer d'être le plus naturel possible et de s'éclater le plus possible aussi. Et de leur parler à eux. Et puis, on verra. Et puis, s'ils aiment, c'est tant mieux. Et puis, de toute façon, je pense qu'il y en aura quelques-uns qui aimeront, dans tous les cas, en espérant.
Justement, vous avez une place quand même particulière, avec un style particulier, dans les différents festivals. Comment vous intégrez, comment vous allez aussi chercher aussi des concerts, comment vous faites par rapport à ce que vous êtes pour vous intégrer dans des festivals dits peut-être grand public ou non, ou peut-être des festivals aussi un peu plus péchus par rapport à un certain style, comme dans le style blues aussi.
Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on fait une grande scène comme ça, on adapte un petit peu le set. Quand on fait des salles plus intimistes, on adapte le set en faisant des chansons plus douces. Là, par exemple, le 23 juillet, on va jouer dans une église, donc il va falloir qu'on soit soft, pas non plus aller comme des bourrins sur du rock, quoi. Mais voilà, on a assez de morceaux de différentes rythmiques, différentes forces aussi, donc du coup on peut s'adapter comme ça. Et je voulais dire aussi qu'il y a une boîte aussi derrière nous qui s'appelle Make Me Prod et qui nous trouve des festivals, etc., qui travaille super bien. Elle s'appelle Gaëlle, c'est notre grande sœur aussi en plus. Et du coup, c'est elle qui promouvoit le groupe partout, donc évidemment elle fait de la pub, etc., et puis finalement ça plaît à plusieurs festivals et on arrive à s'intégrer quand même dans plein de styles. Je sais pas, les gens ont l'air d'apprécier quand même malgré les âges différents, donc j'espère que ça va continuer de plus en plus grand. Je disais un truc rigolo parce que c'est vraiment hallucinant. Par exemple, on a fait plein de premières parties, donc ce qui est génial quand même, c'est qu'on arrive à, sans être prétentieuse, c'est pas du tout mon but, mais on arrive quand même à attirer l'attention de avec notre style de musique de publics différents. Par exemple, on a déjà fait une première partie de Grand Corps Malade là, par exemple, mais on va en faire d'autres normalement. Et donc en Normandie notamment, peut-être, on verra. Mais dans tous les cas, voyez, c'est pas du tout le même public, et pourtant on arrive à accrocher ce genre de public, le genre de public de Mathieu Chédid aussi, par exemple, le genre de public de Toto, ça dépendra ce soir, mais les trois fois où on l'a fait, ça allait. Donc c'est assez génial, quoi. On est super contente à chaque fois, quoi.
M. Grand Corps Malade, Toto, est-ce qu'il y a des premières parties de rêve quand on s'appelle Isaiah, quand on...
Là, il y en a plein. Bon, mais déjà, tous les Ray Charles et tout ça, c'est foutu. Mais il reste Stevie Wonder. Oh, je prie tous les jours pour ça, voilà. Oui, évidemment, mais moi, c'est Stevie Wonder, mon préféré. Donc, voilà. Mais bon, mon Dieu, il faut avoir de la chance. Et... Non, mais moi j'adore Eddie Vedder, c'est le mec des Pearl Jam, voilà, lui je l'adore. Mais voilà, mais il y en a peu qu'on aime qui sont encore là, quoi.
Vous avez écouté donc cette interview, on a vraiment passé un très très bon moment dans ce village d'artistes, on a bien rigolé, et merci à Isaiah.
Mais voilà, ça serait les premières parties de rêve. Il y a quelques années, ça aurait été Johnny Cash, mais bon.
Alors, en dehors des premières parties, en dehors des grandes vedettes, est-ce qu'il y a des artistes français, européens ou venant de plus loin qui fabriquent vos influences actuellement, des gens chez qui vous vous dites, tiens, ben voilà, ces éléments musicaux-là, j'aimerais bien les intégrer à ma musique?
Non, elles sont trop bien, tes questions, franchement. Mais le truc, c'est que on est très difficile, ma sœur et moi, quand même. Comme je disais tout à l'heure, on n'arrive pas à aimer les choses de maintenant. Enfin, c'est trop dur, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très rare qu'on aime les trucs de ce qui se fait maintenant, en fait. Après, il y a Après, il y a des choses dans l'électro, par exemple, même si à la base on n'est pas très électro. Il y a des choses quand même dans l'électro, par exemple Simon Henner avait fait notre ancien album, avait réalisé, et lui c'est un gars, c'est un Marseillais aussi de la scène électro, Simon Henner, French 79, il a, voilà, donc ce genre de, moi j'aime bien sa musique à lui, voilà, mais c'est nos potes Marseillais en fait, on les trouve talentueux, etc., mais c'est vrai qu'on va pas trop à des concerts, et bon... Ouais, Gaël, mais bon, là, on dit ce qu'on aime, tu vois, et si on n'aime pas, on va pas dire. Bon, bref.
Alors, le grand événement, évidemment, c'est la sortie du CD, mais est-ce qu'il y a aussi des grandes dates prochaines, des grands rendez-vous, où on pourrait vous retrouver aussi?
Les grandes dates, alors, il y en aura sûrement la prochaine tournée, parce que dès que l'album sortira, je pense qu'on en aura davantage. Là, en juillet, on en a quelques-unes, mais c'est dans le sud-est, vraiment. On en a Gaël, je demande à Gaël. Oui, mais après, voilà, il y aura des premières parties avec Grand Corps Malade, mais ça, ça sera confirmé. On le confirmera dès qu'on saura. Et peut-être aussi bientôt une tournée aussi en Amérique du Sud. Mais voilà, tout ça, c'est en prévision, et je veux pas, au risque que ça ne se fasse pas par superstition, je dirai pas.
En tout cas, merci beaucoup, et puis un excellent concert à vous ce soir sur la scène Blues Paradise. Merci à vous deux, merci à tout le groupe, bien sûr.
Merci à vous, merci. Merci à vous deux.
Alors, suite à une petite mésentente avec mon DJ, je vous refais ma conclusion. Ouais. Et bien, merci beaucoup à Isaiah pour ce super moment passé avec elle au Cognac Blues Passion.
On va écouter un extrait de leur répertoire. Isaiah. Ça c'est Crying Wolf, extrait de leur album 2016, groupe Isaiah. Je vous propose de continuer notre petit voyage au pays du Cognac Blues Passion avec un jammer hollandais. Vous savez qu'il y a également le XO Jam Stage.
Devil Radio, huh?
Radio 666, the Devil's Radio. Yeah. So, what made you come here in Cognac?
I'm here playing on a jam session actually every year. XO Jam Session for 15 years already now, 14 years.
Ça fait une quinzaine d'années que ce garçon joue en tant que pianiste.
XO Jam Session. Jan van den Berg.
And you come from?
From Holland.
Which part of Holland?
South of Holland. Zeeland, they call.
Just nearby Belgium.
Yeah, close to Belgium. That's how we met. We go to a jam session in Belgium. I think you heard the story already.
Hello, what about you? Et voilà, il y a quelqu'un d'autre sur la terrasse. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. On est pile devant, je crois me souvenir. Dan, tu vas me redire ça. Oui. Mr. Chang, c'est ça?
Oui. Installé là avec un autre pote. François 1er.
Ouais, place François 1er à Cognac, en direct, en différé maintenant.
I'm from Indonesia.
Where are you from?
Indonesia.
Indonesia. Which part of Indonesia?
It's Java.
Okay. Is it the first time here for you?
Yeah, it's my first time.
First time in Cognac?
Yeah.
What are your thoughts about this place? What do you think about that?
It's a beautiful place. And a lot of music too.
Which kind of music do you listen often?
Usually pop.
Okay, that's fine. So you're gonna applaud Toto tonight?
What?
The band Toto?
No, not the Toto.
Came from the blues?
No. Yeah, for playing, and it's quite expensive too in the thing, so we don't go. Yeah, I'm not a Toto freak.
Merci beaucoup. Thank you very much.
Voilà, on continue, on n'est pas très très loin, on est toujours sur la terrasse Place François 1er. On va accueillir Julien Cholet, qui lui nous parlera d'une autre artiste qu'on n'a pas vue, Dan, il s'agit de Louise Weber. On va l'écouter, Louise Weber, mais Julien Cholet, ben, il en parle très bien.
8 minutes.
55, très bien, que les choses sont claires.
Bonjour Julien.
Bonjour Marc.
Comment ça va?
Très bien.
Comment ça se passe cette édition 2019 de Cognac Blues Passion? C'est la dernière journée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait depuis jeudi, depuis le début?
Eh bien, moi, j'organise des concerts à l'Express, au Crunch, et puis on se rend compte que du coup, la ville revit un petit peu aux couleurs de la musique et ça fait plaisir.
Alors, ton rôle, c'est pas uniquement technicien, sonorisateur. Ici, tu fais tout plein de choses. T'es un petit peu le MacGyver, le couteau suisse du festival.
Alors, pas du festival, parce que du coup, ça, je le fais moi-même avec ma propre agence et effectivement avec des groupes que je produis. Donc, on a pu voir Louise Weber, il y a Quentin qui joue, il y a Vince, il y a Flo. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, il y a plein de copains qui sont là. Et puis, l'idée, c'était de faire de la musique un petit peu toute la journée en ville pour que tout le monde puisse en profiter. Et je pense que c'est ce qui se passe.
Est-ce que ça t'a permis, toi, de faire des découvertes, d'aller voir des concerts entiers ou juste des rentes?
Alors, honnêtement, voilà, c'est plutôt des petits morceaux de concert. Donc, j'ai pu rapidement voir Alexis ce matin que je connais. Donc, oui, il y a plein de choses bien. Je pense qu'on peut vraiment en profiter pleinement. Il y a des belles découvertes. Après, il y a beaucoup de gens qu'on connaît forcément à force de les rencontrer. Mais c'est vraiment c'est une belle édition. Puis on a eu la chance quand même d'avoir un soleil plus que magnifique.
Bah écoute Julien, merci pour ça. Et puis ton coup de cœur pour cette année, que ce soit un groupe dont tu as entendu parler avant ou pas, une découverte ou une confirmation?
Non, moi quand je vois l'engouement hier soir pour Louise Weber, voilà, c'est vraiment un projet auquel je crois beaucoup. Et on pourra la retrouver dès ce soir dans un autre lieu en bas au niveau du Crunch. Voilà.
Super, merci Julien. À bientôt.
Merci beaucoup.
Louise Weber, ça s'appelle Les Étiquettes. On va aborder maintenant sur ce village artiste, après avoir interviewé Isaiah, on est allé voir Miss Kazoo Kings. Dan, il y a un certain Michel Roland qui nous en a parlé tout à l'heure en direct. Kazoo Kings, c'est pas quelqu'un qui nous a rendu indifférent à nous non plus.
Non, on a eu beaucoup, beaucoup d'émotions dans son concert. Elle a été vraiment extraordinaire. Moi, c'est quelqu'un que j'avais déjà vu l'année précédente, qui m'avait déjà beaucoup touchée. Et là, dans ce tribute, et à James, elle a vraiment été extraordinaire, aidée aussi par un band derrière elle. Qui était vraiment super super bon, et vraiment on a passé un super moment. Et c'est vrai qu'on a eu la chance après de la retrouver comme ça à Tablier. On a fait un petit coucou, on s'est assis à côté d'elle, et voilà, tu as commencé l'interview.
Et alors, à préciser que les interviews en anglais, on n'a pas eu trop le temps de les traduire encore, donc ça sera peut-être là sur un petit extrait comme ça sur le fil. Et puis en tout cas, les interviews de Zach Harmon, du groupe Toto et de Kazoo Kings, ainsi que celle de Roland Chiaconte, qui était très longue et passionnante, seront diffusées prochainement dans 4 semaines, ça, le 28 septembre, dans Sweet Home Chicago bien sûr. Voilà, on va écouter un petit extrait, on va essayer de traduire comme ça au fur et à mesure. C'est avec Kazoo Kings.
Sur le Cognac Blues Passion avec Miss Kaz Hawkins. It's a very great pleasure to meet you.
Oh, thank you, darling. It's lovely to speak to you.
Yeah.
Voilà, we saw... apparemment, ça se passe de traduction. You perform as Etta James. Mm-hmm. Is there something from Etta James in your body, in your brain? Est-ce qu'il y a quelque chose dans son cœur, dans son corps, dans son esprit d'Etta James? Précisons, comme on avait dit avec Michel, que cette création autour du répertoire d'Etta James avait été magistralement interprétée, Dana, par Kaz Hawkins.
Ah oui, sans problème. On adore sa voix, on adore aussi cette dame.
Kaz Hawkins répond par un rire sonore.
Well, I say, I was unfortunately I wasn't Etta James, but I manifested her, and I think she was looking down on me because I tried to do it in a special way. I tried to do it with authenticity. You know, I didn't want to be a tribute. I wanted to pay homage and pay my respects.
Voilà, elle veut prouver son respect. Et puis lui rendre hommage, bien sûr, à travers ce répertoire.
A woman who has inspired me, but I think there's a little bit of her inside me.
What was your feelings, your own feelings in 2012 when she left us?
En 2012, je voulais savoir
well, she
ce
died the day before my birthday.
Elle est morte
and on my birthday, I lit a candle
and I
spoke to her and I paid my respects and I cried a lot and I got very drunk.
We heard you talking about your life on stage. What happened when you were 12 years old? On vous a entendu parler de votre vie sur scène, vous parlez de façon ouverte de votre vie. Qu'est-ce qui vous est arrivé à l'âge de 12 ans? Là, on arrive, Dan, à un moment un petit peu particulier de l'interview. On ne se connaît pas encore très bien et voilà sa réponse.
Well, up until 12, I had gone through a lot of trauma. In Northern Ireland, we had the troubles of war, and there was bombings and
voilà,
people.
On va rappeler quand même que c'était une période de troubles. Elle vient d'Irlande du Nord, de Belfast, tout particulièrement. À l'âge de 12 ans, on est en 1985 pour Kaz Hawkins. Il se passe des choses pas très très jolies.
Died and shootings, and then I was being abused by an uncle in my home.
Voilà, elle a été abusée par ses parents.
So when I was 12 years of age, I first heard Etta James sing St. Louis Blues, which is a W.C. Handy song. And I remember having my little Walkman, putting my ears in and hearing this power, but also this pain in her voice that I could identify with. And I think it was the moment I fell in love with. But it was definitely the moment I fell in love with Etta James.
Voilà, c'est le moment où, effectivement, où elle est tombée amoureuse de cette chanteuse du répertoire d'Etta James. On va écouter Etta James, tout simplement, hein, si on pouvait. Non, on va écouter Kaz Hawkins avant, tout simplement.
Lipstick and cocaine hurting my brain, laying in my bed, I feel my pain. A uniformed man at the door said, come with me, darling, it'll be okay.
from the doctor said, come with me, darling, I'll make you well. And he made me well. He said, lipstick and cocaine hurting my brain. Lipstick and cocaine, I won't go back again.
Grande Keith Hawkins qui nous a mis les poils aussi, l'acheteur de poules pendant son concert, son tribute à Ethan James. Elle a pleuré, beaucoup de gens pleuraient aussi dans l'assistance. Un très très grand moment, je pense qu'un des plus grands moments, pour moi peut-être le plus grand moment du Cognac Blues Passion 2019.
Tout à fait, je partage exactement ça, Dan. On est ensemble sur Radio 666, l'émission Sweet Home Chicago numéro 1064 jusqu'à 16h et on est en train d'égrener comme ça tous les invités de Michel Roland de cette année. On a eu Michel en première heure. Si vous n'avez pas eu le temps, si vous n'étiez pas à l'écoute tout simplement du début de cette émission des 13h, eh bien sachez que ça sera rediffusé la semaine prochaine. Puis également, il y a le podcast qui est disponible sur blues.radio666.com.
Could speak to a dream that I
Voilà, Atlas, bien sûr, version 1961, la grande Etta James. J'ai une question pour toi, Dan.
Oui.
Je crois que tu n'as pas vu Etta James.
Et
est-ce
non.
que ça fait partie des artistes que tu regrettes de ne pas avoir applaudi?
Bien sûr, comme tant d'autres, bien sûr.
On poursuit avec un garçon que tu connais, qu'on a rencontré dans les coulisses
dans les allées du festival, puisqu'il est un pianiste de grand talent, un pianiste de boogie-woogie qui anime les soirées privées du festival Blues Passion depuis fort longtemps. À noter aussi qu'il est aussi, il a été le programmateur d'un festival très renommé, le festival de la Roquebrune. C'est un festival de boogie-woogie aussi dans le Cantal. Il a aussi accompagné Mo Aljaz sur scène en tant que pianiste. Voilà, donc nous allons écouter l'interview de Michel Alzounès. Bonjour, on fait un petit micro-trottoir donc pour une émission. D'abord, quel est votre nom et votre prénom ?
Moi, c'est Michel Automatic Slim Alzounès. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous faites dans le festival ? Je sais que vous avez une tâche particulière, enfin un rôle particulier.
J'anime les soirées au carré VIP, carré des médiums. Il y a un piano et il faut mettre un peu d'ambiance quand on peut parce qu'il y a du bruit de tous les côtés. Donc il faut trouver un créneau pour pouvoir passer et faire entendre le piano.
Et qu'est-ce que vous jouez ?
Surtout du boogie-woogie. Parce que c'est festif, parce que les gens dansent. Hier, quelqu'un a chanté avec moi, c'était super, on a fait deux morceaux. Un peu de blues, mais c'est plus cool, donc ça s'entend pas. Il faut envoyer, mais il faut être en forme. Il fait très chaud, on respire mal dessous. Les pianos ont tendance à se désaccorder. Pas celui que j'ai cette année, parce qu'il est très bon. Mais le quatrième jour, c'est très dur.
Alors, qu'est-ce qui est dur aussi ? Est-ce que les gens vous écoutent ?
Pas trop, parce qu'ils sont pas là pour écouter la musique, ils sont plutôt là pour parler affaires. Mais il y a toujours deux ou trois personnes qui viennent, qui prennent un contact, qui apprécient le boogie, qui apprécient le blues et qui parlent avec moi, et c'est sympa. Et là, ça me donne un peu de pêche.
Alors, on est au Cognac Blues Passion, mais vous avez aussi un autre festival très très connu. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Il y a deux festivals. Un festival de boogie-woogie à la Roquebrune qui se tient cette année pour la 21e année. J'ai vu depuis 21 ans passer à peu près 180 pianistes de boogie différents qui viennent du monde entier. Ça dure une semaine. C'est la fin de la première semaine du mois d'août. Il y a des gens qui viennent d'outre-Atlantique, de partout, pour voir ce festival. Il y a les pianos dans les rues, des pianos dans les bars. Ça joue toute la journée. Il y a des danseurs aussi, parce qu'il y a, c'est aussi un festival de danse, l'Indie Hop, Boogie Woogie. Il y a des stages, il y a des barnums pour s'entraîner. Et jusque toute la nuit, il y a des pianos qui jouent. En plus des quatre soirées officielles avec une grande scène, trois grands pianos à queue, des grands écrans géants pour voir le jeu des mains des pianistes et des danseurs de boogie professionnels, des champions du monde. C'est magnifique.
Merci beaucoup, Michel.
Voilà, merci. À bientôt. Bon festival.
Voilà, un petit peu rencontré au hasard dans les allées du festival, Michel Alzounès. Et puis, beaucoup moins par hasard, c'était pas vraiment prévu, mais on a pris rendez-vous avec monsieur le maire de Cognac, qui nous a reçu très très gentiment dans son bureau.
Oui.
Deux heures avant, c'était pas prévu, et j'ai trouvé ce monsieur fort aimable, fort agréable, et très disponible. Et puis, contrairement à ce que disait Michel Roland en première heure, il s'y connaît pas mal en musique.
Hein. Je crois.
On écoute ?
Ok.
Allez, Michel Gourachas.
Bonjour, on fait un petit micro-trottoir donc pour une émission.
Non, c'était pas ça. C'est, oui. Voilà, Michel Gourachas.
C'est la radio The Devil's Radio, ouais. Exactement. Tout à fait.
Ça te va bien, moi, j'ai préféré celui-ci.
Alors, on est en direct de la mairie de Cognac avec monsieur le maire, Michel Gourachas. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci de nous accueillir déjà. Et puis, j'allais dire grand merci de nous permettre chaque année de revenir nous combler de toutes ces vapeurs de cognac et de blues, parce que je crois que cette ville-là, depuis 1994, sait faire.
Je crois que oui. Alors, je n'étais pas maire à l'époque. Hein. Moi, j'en ai profité en tant que spectateur. Depuis 2008, je fais plus qu'en profiter en tant que spectateur. Je suis aussi partie prenante intégralement aux côtés de Michel Roland et de son équipe de Blues Passion. Je crois que cet événement est un événement marquant pour la ville, qui maintenant fait partie quelque part du patrimoine. Alors, le patrimoine vivant. Quand on parle de patrimoine, on pense à vieux châteaux, truc. Non, ça, c'est, on est dans quelque chose de vivant. suivant. Cette année a été une année assez, franchement, mais c'est pas assez, a été franchement réussie, tant d'un point de vue des artistes qui sont venus que du temps qui est important pour un festival en plein air, et aussi par la présence nombreuse du public.
Alors avec Michel Roland qui est programmateur, directeur du festival depuis les origines, c'est toujours une bonne entente. Est-ce qu'il s'agit de collaboration, est-ce qu'il s'agit d'amitié?
Moi, je crois que c'est les deux. Et quand on est amis, on se dit les choses, y compris les choses qui peuvent fâcher, mais c'est extrêmement rare dans nos relations. On est plutôt à travailler ensemble pour la ville, pour l'attractivité de la ville et pour le plaisir des gens qui viennent à écouter de la musique, à rencontrer des artistes et à passer un bon moment avec un produit qui s'associe parfaitement avec la musique.
Alors vous disiez, avant d'être premier édile de Cognac, vous étiez déjà bien sûr un fervent festivalier. Est-ce que vous avez des souvenirs comme ça, des coups de cœur qui vous reviennent depuis les origines du festival? Un groupe, un artiste que vous auriez retenu par son aura, par son talent?
Pourquoi c'est limité à un? J'ai eu la chance de voir Canedite et... Je savais pas, je connaissais le morceau de musique, je savais pas quel était le groupe, honnêtement. Pourtant je suis quand même assez passionné par le rock et le pop depuis fort longtemps. Ensuite, d'autres moments, on a eu Texas, où c'était là aussi pour moi un bon moment. Il y a eu M, alors honnêtement j'ai beaucoup de mal à supporter M quand j'entends les disques en concert. C'est une bête de scène. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai vu deux fois et je vais le voir cette semaine encore à La Rochelle au Franco, mais je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu une fois sur un spectacle qui était propre à lui, et le deuxième c'était La Moumali. Alors là c'était avec des artistes africains, c'était extraordinaire. Voilà, on a vécu un très grand moment, et pour tout dire, hier soir j'en ai vu qu'un autre avec Lavilliers. C'était du grand Bernard Lavilliers, la voix, la musique, le top.
Alors ce matin, nous avons assisté à l'inauguration d'une allée qui va porter le nom d'Odetta. Ça laisse des traces dans la ville. Qu'est-ce que vous pensez de ces traces-là? Qu'est-ce que ça apporte dans le jardin public?
Et pour compléter la question, c'est la troisième personnalité venue à Cognac Blues Passion qui va laisser son nom ici.
Oui, c'est la troisième, c'est la première femme. Le choix incombe surtout à l'équipe de Michel Roland, hein, mais que je valide naturellement. Je suis pas un spécialiste du blues, je suis un spectateur intéressé et assez à l'écoute. Mais l'idée initiale, c'était plutôt de donner des noms de rue à des bluesmen ou des blueswomen. Mais la difficulté, c'est que depuis que je suis maire, on a créé que deux rues, donc je voyais bien que ça pouvait pas le faire. Et l'idée de Michel de faire quelque chose dans le parc de la mairie, le parc qui est l'âme du festival, je trouve que c'est l'idée est bonne. C'est quelque chose qui restera de fait, hein, comme dans le parc il y a aussi des apports des villes avec lesquelles nous sommes jumelés. C'est un parc vivant, et le blues. C'est l'âme du festival, elle est ici, au Théâtre de la Nature, et puis dans ce cadre magnifique, hein, pour vos auditeurs, s'ils ne connaissent pas encore Cognac, bien qu'ils viennent, et s'ils connaissent Cognac, j'espère qu'ils connaissent le parc de la mairie, parce que y a plein d'endroits à se promener et à découvrir des choses intéressantes.
Au pays des musiques américaines, parmi les bluesmen, la ville de Cognac, elle est bien sûr associée au Cognac depuis des siècles, mais maintenant, j'allais dire depuis un quart de siècle, Cognac, c'est la ville du blues par excellence, et c'est reconnu outre-Atlantique. Qu'est-ce que ça vous fait que des bluesmen du Mississippi puissent parler de la ville de Cognac, par exemple?
Oui, moi je pense que... dans le monde entier, on sait, le nom de Cognac parle, mais on connaît Cognac par le produit. Que de plus en plus de gens dans le monde connaissent Cognac pour la ville, Ce qui n'enlève rien au produit. Hein. Et je trouve que c'est une chance pour nous. Ça veut dire que ça, l'attractivité fonctionne, que y a des, du coup ça donne envie à des gens de venir découvrir cette ville qui est la ville éponyme du produit et du coup de goûter le produit. Hein.
Est-ce que les services touristiques de la ville ont pu constater un pic particulier pendant le Cognac Blues Passion ou est-ce que sur les autres festivités cognacaises, voilà, ça reste une des manifestations importantes?
C'est clairement une manifestation extrêmement importante. Alors c'est pas les services municipaux parce que c'est l'office de tourisme et ça dépend de l'agglomération et pas de la ville, mais bon, on est suffisamment proche pour travailler intelligemment ensemble. Oui, c'est un moment important pour les hôteliers, pour les restaurateurs, pour voilà, la place François 1er, il y avait plein de monde dans les rues de Cognac, il y avait du monde, il y a pas que sur l'espace clos de l'hôtel de ville, il y a la ville vit aux couleurs du festival et avec Michel nous avons des projets que nous portons sur la durée un peu longue à son goût mais en même temps en fonction des finances de la ville mais de faire que cette ville soit un peu plus encore une ville du blues. L'idée étant qu'on parte de la gare et qu'on arrive jusqu'au jardin public avec des espaces qui soient identifiés blues.
Est-ce que le fait d'exploiter par exemple le terrain de rugby, ça serait quelque chose de possible pour attirer des artistes avec une plus grande renommée encore?
Non, moi je suis pas favorable. Le rugby aujourd'hui est à un haut niveau. Je pense pas qu'il faille prendre de risques pour utiliser un terrain et risquer de l'abîmer. Voilà. Et ça veut dire faire deux scènes ou alors abandonner le jardin public. Et si on abandonne le jardin public, on abandonne l'âme du festival. Donc voilà. Bon, moi, le festival il commence à Jarnac, qui est une autre commune. Connu aussi hein, pour le fait que François Mitterrand y soit né et y soit enterré. Mais au-delà de ça, tous les ans, il y a le début du festival se fait à Jarnac. Et c'est bien, donc ça fait une scène. Bon, le rugby, effectivement, enfin le terrain de rugby pourrait permettre de mettre plus de spectateurs que c'est le cas dans le théâtre de la nature du jardin de l'hôtel de ville. Bon, en même temps, c'est. Le blues, c'est ici. C'est pas là-bas.
Monsieur le maire, si vous étiez donné de choisir, sans considération financière du tout, un artiste pour l'édition 2020, parmi les gens qui ne sont jamais venus ici encore à Cognac, qui choisiriez-vous?
Alors moi, Michel le sait, c'est Pink Floyd. Moi, alors là, je suis un amateur de Pink Floyd depuis les années 70. Je les ai découverts initialement avec Dark Side of the Moon. Et après j'ai découvert les albums précédents et je crois qu'il m'en manque peut-être un mais je les ai à peu près tous y compris la musique de Après Ski Point voilà y compris tout ce qui existe. Je suis mort, ouais, je suis un fan des Pink Floyd et j'ai prévenu ma famille que le jour où je disparaîtrai, je voudrais bien qu'il y ait un morceau de musique de Pink Floyd et aussi Europa de Santana parce que Santana est venu et surtout c'était la musique de Foulquier l'intro de son émission sur France Inter et que quelque part ce terme m'est resté dans les oreilles.
Voilà. Oui, Foulquier, créateur des Francopholies de La Rochelle, effectivement. Michel Gourinchas, merci beaucoup d'avoir offert quelques minutes à Radio 666.
Merci à vous, très heureux toujours de pouvoir m'exprimer et du coup de faire connaître Cognac et ce beau festival dans d'autres régions que celle de Poitou-Charentes.
Merci encore.
Merci.
Salut. Ça va bien?
Ouais, ça va bien. Et vous?
Bon, pourquoi êtes-vous devenu au Festival Blues Passion, Cognac Blues Passion?
Eh bien, en fait, j'étais chez moi, j'ai entendu du bruit.
Vous l'avez reconnu?
Et je suis venu jouer.
Ça.
Voilà. Non, mais j'ai été invité par Michel, j'ai été invité par Julien. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Voilà.
Est-ce que tu connaissais le JB qui est venu buffer avec toi tout à l'heure?
Le JB, je le connais de loin puisque c'est un artiste cognacé et que je le croise souvent, on se croise, soit c'est moi qui joue, soit c'est lui, donc on se tourne autour et à côté et je l'ai entendu y jouer tout à l'heure. Donc on a pu l'écouter pendant qu'on mangeait. Et ensuite, ben voilà, donc ça c'est un peu le blues, hein, ça se fait comme ça, quand il y a un truc qui se passe, ça se passe.
Comment est-ce que tu as choisi le répertoire pour cet après-midi?
Je pioche dans un très large éventail de chansons que j'ai et je fais en fonction de la chaleur. Non, je fais vraiment en fonction du public et de ce que j'ai envie de jouer moi.
Le morceau cool qu'on vient d'entendre, on avait cru entendre Rivers Invitation, Percy Mayfield. Ouais. Tu n'as pas chanté dessus, ça aurait pu être ça?
Non, parce qu'en fait, c'est dans cet esprit de balade soul un petit peu. Mais c'est une compo que j'ai pas joué depuis très longtemps, donc je me rappelais plus tout à fait du thème, qui s'appelle Stevie, que j'avais fait en hommage à Stevie Ray Vaughan, qui avait écrit un morceau qui s'appelle Lenny. Lenny, avant Riviera Paradise. Et j'adorais ce morceau et j'avais écrit un morceau qui doit être sur un de mes premiers albums avec le groupe Easy Money. Et du coup, je me suis dit, tiens, si on faisait un petit instru posé. Puis du coup, tu vois, ça a créé l'idée de faire venir JB. Donc voilà.
Et tu peux nous présenter ton saxophoniste?
Oui, alors c'est monsieur Sylvain Tégérizo, qui est saxophoniste entre autres de Nico du Portal and the Sparks. Voilà, et surtout un très vieil ami à moi, Bergeracois.
Merci Sam, bon festival.
Merci à vous, à très bientôt.
Voilà, ça, Mr. Chang, qu'on retrouve un petit peu partout, et puis en l'occurrence à Cognac, un garçon sur lequel il faut compter depuis pas mal d'années sur la scène blues française. Hein, Dan?
Oui, on le rencontre donc chaque année à Cognac, puisqu'il habite là-bas maintenant, et c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on connaît depuis fort longtemps et qu'on aime beaucoup aussi.
Alors là, quelqu'un qu'on aime aussi énormément et qui nous a gratifié d'une longue et très belle interview, j'ai envie de dire, il s'agit de M. Roland Tchakounté. On va pas écouter l'interview en intégralité, on va en écouter un extrait simplement, mais voilà, histoire de se mettre dans l'ambiance.
On est avec Roland Tchakounté, ici en direct de Cognac. Cognac Blues Passion, une histoire qui existe depuis plus d'un quart de siècle, une histoire à laquelle, Roland, tu as déjà participé.
Oui, j'y ai participé à plusieurs reprises. Je suis ici un peu comme à la maison et comment dire, et à chaque fois que je suis invité, c'est un bonheur, quoi. C'est toujours un très grand plaisir. Voilà.
Alors en ce moment, tu te produis à Cognac, mais on le sait, depuis de nombreuses années déjà, tu es invité, on va dire, aux quatre coins de cette planète. Ça a été aussi d'abord grâce à ton talent, grâce à ce que tu fais, grâce à tout ce que tu apportes à cette musique qu'on va décrire ensemble tout à l'heure. Mais tu le dois aussi à quelques personnes dont on pourrait peut-être parler ensemble.
Oui. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on vient de Cameroun, et quand on est au Cameroun, on va dire, on est dans un univers musical extrêmement riche. Il y a tellement de variantes musicales qui font qu'au quotidien, on s'ennuie pas, quoi. Il y a tellement de choses à écouter. Alors, lorsque j'ai décidé de faire de la musique, de mon métier, je ne me sentais pas du tout en phase avec... quand j'ai en phase, c'est-à-dire que sur le plan professionnel, je ne me sentais pas en phase avec ce qu'on appelle la musique populaire du Cameroun, notamment ce qu'on appelle le Makossa, le Mangambo, etc., qui sont les musiques populaires au Cameroun. C'était pas le type de musique qui m'emballait vraiment. Ce qui m'attirait le plus, c'était la musique anglo-saxonne, on va dire. Ça m'attirait beaucoup. Et lorsque j'ai commencé à me sentir à l'aise avec la musique, j'ai souhaité absolument... Comment dire? J'ai souhaité absolument... créer ma voix par la musique anglo-saxon, sauf que il y avait comme une sorte de règle qui était qu'il fallait chanter cette musique dans une langue soit américaine, soit dans une langue occidentale, on va dire.